Le direct se poursuit sur l'antenne de Graphite. Bonjour à tous, bienvenue, je m'appelle Jean-Noël. Ça va être plus calme qu'avec Enrique parce que moi je suis toujours essoufflé quand je prends l'antenne juste après Enrique parce qu'on n'arrête pas de bouger, on n'arrête pas de chanter. Et moi ça va être un peu plus calme au niveau de l'actualité scientifique. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h, la rediffusion le mardi matin à 10h. Vous nous écoutez sur la bande FM 94.9, sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent soit en direct, soit en différé. Et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'envoyer vos messages au 06 95 065 026 06 95 065 026. Nous allons feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Pas mal de choses intéressantes et pas toujours réjouissantes. Aujourd'hui, le 23 mars, c'est la journée mondiale de la météorologie. Ça commémore en fait l'entrée en vigueur en 1950 de la convention qui a institué l'Organisation météorologique mondiale. Donc, journée de la météo. Aujourd'hui, la météo va être plutôt capricieuse, notamment au niveau de la moitié nord de la France, parce qu'il va y avoir une alternance à la fois de... comment dire, d'éclaircies. Et alors là, c'est totalement gris sur Compiègne en ce moment, mais heureusement, avec Enrique, on ne s'en est pas rendu compte. Au niveau de l'éphéméride aujourd'hui, 23 mars en 1857. J'aime bien cette éphéméride parce que ça nous permet de recontextualiser un petit peu au niveau histoire. 1857, c'est l'inauguration du premier ascenseur installé dans un grand magasin. Moi, je ne pensais pas qu'on était en 1857 en mesure d'avoir des ascenseurs dans des grands magasins, eh bien c'est la société Otis, tiens ça nous dit quelque chose au niveau des ascenseurs, qui est à l'inauguration en 1857. Naissance le 23 mars 1882 d'Amalie Emmy Noether, c'est une mathématicienne allemande, spécialiste d'algèbre abstraite et de physique théorique. Ça devait être sûrement très sympathique de passer des soirées avec elle. Elle est considérée par Einstein comme le génie mathématique créatif le plus considérable produit depuis que les femmes ont eu accès aux études supérieures. Amalie Emmy Noether a révolutionné la théorie des anneaux, des corps et des algèbres. Grande personnalité, grande mathématicienne, née donc un 23 mars 1882. Décès de Georges Théodule Guilbeau, décédé il y a une quinzaine d'années, 16 ans, c'était le 23 mars 2008. C'est un mathématicien français, fondateur, directeur du Centre d'analyse et de mathématiques sociales à l'École pratique des hautes études. En fait, il joue un rôle important dans la diffusion des méthodes mathématiques dans l'économie et les sciences humaines. Georges Théodule Guilbeau. C'était donc l'éphéméride. Il y a une averse en ce moment pour la journée de la météo. Je pense qu'on va avoir aujourd'hui toute la météo possible. Moi, je suis arrivé sous un superbe soleil et là, il y a des averses vraiment compliquées. Au niveau de l'actualité, il y a eu deux informations assez dramatiques. Assez dramatiques hier. Alors, on apprend par France Info que le bilan humain de l'attaque terroriste sur une salle de concert de la banlieue de Moscou, ce qui a été revendiqué par l'organisation État islamique. Ce bilan est désormais de 115 morts. C'est ce que vient d'annoncer le comité d'enquête russe. Si on a d'autres informations au cours de cette émission, évidemment, on n'hésitera pas à vous tenir informés. Et puis, on a appris également hier, par une vidéo, que la princesse Kate Middleton avait révélé dans une vidéo qu'elle était atteinte d'un cancer. Elle explique qu'elle est au premier stade du traitement et elle a entamé une chimiothérapie préventive après une importante chirurgie abdominale qu'elle avait subie en janvier. Et la question de savoir, c'est quoi une chimiothérapie préventive? Elle est couramment... Enrique me dit qu'il fait 27 degrés à Lisbonne. Je n'y crois pas. La chimiothérapie préventive, c'est ce qu'on appelle la chimiothérapie adjuvante. En fait, c'était quelque part, on va pouvoir donner un petit peu des informations sur tout ce qui va être chimiothérapie, parce qu'objectivement, quelque part, à part les personnes bien évidemment directement concernées, on a très peu d'informations et d'éducation sur ce sujet-là, parce qu'on touche vraiment profondément à l'intime. Et on s'est rendu compte depuis hier soir qu'il y a pas mal d'articles dans la presse, et donc là j'ai regardé la presse française, et en l'occurrence là je suis sur un article de France Info qui revient sur ces sujets-là pour expliquer, justement pour apporter un petit peu plus d'informations sur ce terme de chimiothérapie préventive. L'idée, c'est d'un traitement médical anticancéreux qu'on va administrer en complément d'une chirurgie. L'idée, c'est de pouvoir éviter tout risque de récidive du cancer dans la zone qui a été touché, ou c'est aussi essayer d'éviter la diffusion d'éventuelles cellules cancéreuses ailleurs dans le corps. Ce type de traitement est plutôt réservé au cancer localisé à un stade précoce de la maladie. Dans son message vidéo, la princesse Kate explique que ce n'est qu'après son opération abdominale que des tests ont révélé un cancer. Alors, comme je vous le disais, il y a pas mal d'articles. On trouve notamment dans Le Parisien cette interview de Nicolas Girard, qui est le chef du département d'oncologie médicale à l'Institut Curie à Paris. Il explique qu'il est rare que la chirurgie seule suffise, sauf dans les cas de tumeurs très petites. Mais si celle-ci est volumineuse et qu'il y a des ganglions atteints, on va faire donc des traitements complémentaires. Un traitement adjuvant, donc cette idée de chimiothérapie préventive, c'est un traitement de sécurité. Alors, il y a d'autres types de chimiothérapie qui existent. Ces traitements sont prescrits aux malades en fonction du type de tumeur et aussi en fonction du stade d'évolution de la maladie, bien évidemment. Les chimiothérapies néo-adjuvantes visent directement la tumeur avant une intervention. Elles sont prévues pour stopper l'évolution de la tumeur, parfois réduire la taille de la tumeur, afin de permettre une chirurgie conservatrice. Les chimiothérapies métastasiques, elles ciblent les cellules cancéreuses qui sont allées se fixer sur d'autres organes ou dans d'autres parties du corps. Et il existe également des chimiothérapies palliatives, qui sont administrées en vue de contrôler les effets de la tumeur sans espoir de la faire disparaître. Donc voilà, on va pouvoir peut-être quelque part essayer d'informer et d'éduquer un petit peu plus sur ces sujets-là, suite à l'annonce hier donc de la princesse Kate Middleton, qui annonçait donc avoir été atteinte d'un cancer. Voilà, donc il y avait, je prends un petit peu l'information, l'actualité telle qu'elle nous arrive, et essayer d'en trouver un lien vis-à-vis de cette émission. Ça me semblait, voilà, avoir un petit peu de vocabulaire sur ces sujets-là. Quelque chose d'un petit peu plus plaisant, quoique, c'est l'Earth Hour. Je suis toujours bon en anglais. L'Earth Hour, c'est bien sûr l'heure de la Terre. Vous connaissez peut-être ce mouvement. Cette heure durant laquelle le Fonds mondial pour la nature, WWF, nous invite désormais tous les ans, en signe de soutien à la lutte contre le réchauffement climatique, nous invite à éteindre nos lumières pendant une heure. Eh bien, ça sera aujourd'hui, samedi, à partir de 20h30. Ça se fait partout dans le monde, 20h30, heure locale. Alors l'histoire de ce mouvement est assez intéressante. En fait, tout a commencé en 2007 du côté de Sydney, avec l'ambition plutôt modeste de montrer à un gouvernement australien qui était à l'époque plutôt climato-sceptique que le sujet préoccupait de nombreuses personnes. Et résultat, il y a eu plus de 2 millions de personnes qui ont éteint leur lumière. C'était précisément le 31 mars 2007. L'année d'après, 2008, le mouvement a pris de l'ampleur dans pas moins de 35 pays. Il y a eu environ 50 millions de personnes qui ont appuyé sur leurs interrupteurs. Le Golden Gate et le Colisée ont été les premiers monument à être plongé dans le noir pour l'occasion. En 2009, l'Earth Hour est officiellement devenu le plus grand mouvement populaire au monde pour la défense de l'environnement. Puis, il y a eu des actions plus concrètes qui ont vu le jour. Et justement, c'était un petit peu intéressant, bien sûr, d'avoir de la sensibilisation, mais aussi d'avoir des actions concrètes. Et ce mouvement a été à l'origine notamment de la reforestation de 2700 hectares en Ouganda, à l'origine d'une loi pour une meilleure protection des mers contre les pollutions aux hydrocarbures et notamment la suspension de nouveaux projets en Arctique pour la Russie, la création de la plus grande aire marine protégée d'Argentine, la création d'un parc naturel en Malaisie, la fin des sacs plastiques dans les îles Galapagos. Tout ça est à l'origine de ce mouvement Earth Hour. L'année dernière, 2023, le mouvement est encore passé à la vitesse supérieure. C'était le lancement de la Biggest Earth Hour, c'est-à-dire l'heure la plus importante de la planète. L'idée, c'était de ne plus demander au monde d'éteindre simplement ses lumières pendant une heure, mais appeler les populations à consacrer une heure de leur temps à la Terre. L'objectif affiché à l'époque était d'atteindre une barre symbolique de 60 000 heures d'engagement. Et en fait, ça a été un objectif totalement pulvérisé parce qu'il y a eu plus de 400 000 heures qui ont été promises d'heures justement pour consacrer intérêt à la Terre. L'histoire, elle peut continuer, bien sûr, à s'inscrire cette année. Donc, si vous êtes en panne d'inspiration, vous pouvez voir un petit peu les idées qui sont suggérées sur le site Earth Hour. L'opération de nettoyage, l'observation d'étoiles, des écritures de poèmes, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Donc, voilà, peut-être que vous allez y participer, même si ce soir, bien sûr, 20h30, on sera presque en plein match France-Allemagne. Mais enfin, bon, ça, c'est pas grave. Chacun va pouvoir choisir son activité comme il le souhaite. Mais voilà, c'est donc l'Earth Hour aujourd'hui pour ce 23 mars. Voilà, en gros, l'éphéméride assez allongée de cette émission. On va écouter un premier titre avant de feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. On va parler, je suis en train de chercher le nom de ce Français qui a reçu cette récompense, parce qu'on parlait pas mal de mathématiques hein, tout à l'heure avec l'éphéméride. Eh bien, le Français Michel Talagrand, il remporte le prestigieux prix Abel de mathématiques. On écoute, on va voir cela juste après un premier titre sur l'antenne de Graphite 06 95 065 026 si vous souhaitez envoyer vos messages par SMS. Vous êtes bien sur Graphite, restez avec nous.
Last night I saw you in a dream. I am so much older now, but you were standing there and you were still the same. I long to pull you into my life, like a fish that tastes the air and bends its silver body in the light. Like a spy who came in from the cold, with nobody left to hold. All the relics of our days were discarded far away. We crossed the bridge that ancients built, saw the Tiber for the first time, walked its deserted river banks at night. From our rusted balcony, we felt the motion of the sea. In our Japanese room, we could see the blossom bloom.
The door is always open.
C'était Ralph Band sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur le 94.9 et graphite.net. Après la pluie, le beau temps, il y a un soleil magnifique qui vient d'arriver sur Compiègne. Après cette espèce d'averse totalement orageuse il y a 2 minutes. C'est la journée de la météorologie, nous a-t-on dit. Alors, on va parler donc de l'actualité scientifique et cette semaine, enfin, quand même, parfois des bonnes nouvelles et notamment, je vous le disais, le français Michel Talagrand qui remporte le prestigieux prix Abel de mathématiques à la question « Comment prédire ce qui est aléatoire ?» Eh bien, c'est le prix Abel de mathématiques qui a récompensé cette semaine, mercredi précisément, Michel Talagrand qui est un spécialiste des probabilités et de l'analyse fonctionnelle. Ça peut être le poids des bébés, ça peut être la taille des vagues, les travaux de cet ancien chercheur du CNRS, il a aujourd'hui 72 ans, eh bien ces travaux ont permis de mieux comprendre les phénomènes aléatoires dont le monde est fait. Michel Talagrand est distingué pour ses contributions révolutionnaires qui ont eu des applications remarquables en physique, mathématiques et en statistique, c'est ce qu'a expliqué l'Académie norvégienne des sciences et des lettres. Il a fait sa carrière à l'Institut de mathématiques de Jussieu à Paris. Il est le 5e français à remporter le prix Abel depuis sa première édition, une vingtaine d'années. Les mathématiques françaises se portent extrêmement bien. Nous pouvons en être fiers. C'est ce qu'il a déclaré à l'AFP. Michel Talagrand, il a un physique aussi. Vous avez peut-être vu dans différents articles cette semaine, un bandana sur la tête, des petites lunettes fines, une barbe blanche, c'est presque une gueule d'acteur, j'allais dire. Et il a, lors d'une visioconférence avec l'Académie norvégienne, vraiment confié sa surprise d'avoir remporté le prix. Il y a eu un blanc total dans mon esprit pendant plusieurs secondes, c'est ce qu'il a expliqué. Si l'on m'avait dit qu'un vaisseau extraterrestre avait atterri devant l'hôtel de ville, je ne pense pas que j'aurais été plus surpris, dit-il. Ce qui est intéressant, c'est son parcours. Il a été interviewé par l'AFP et il explique qu'il a choisi les mathématiques par nécessité. À l'âge de 15 ans, j'ai eu de multiples décollements de la rétine et pendant 10 ans, j'ai vécu dans la terreur de devenir aveugle. Et donc, pour le supporter, et comme il ne pouvait pas aller courir avec les copains, il se plonge donc dans le travail. Son père est agrégé de mathématiques et donc c'est vers cette matière qu'il se tourne naturellement, dit-il. Les maths, plus on en fait, plus ça devient facile, c'est ce qu'il affirme. Il a une page internet, un cas assez rudimentaire, qui explique que les mathématiques donnent des ailes. Alors, dans ses attendus, l'Académie norvégienne met en exergue 3 de ses contributions dans des domaines un peu aux intitulés assez obscurs, hein, notamment le suprémum des processus stochastiques, okay, la concentration des mesures et le verre de spin qui a trait au comportement d'impureté magnétique dans des alliages métalliques. Alors, vous êtes comme moi, vous n'avez rien compris. Ce qu'il faut en retenir, c'est ce qu'explique le président du comité du prix Abel. Monsieur Talagrand s'avère être un mathématicien exceptionnel, doublé d'un redoutable spécialiste dans la résolution de problèmes. Il a grandement contribué à notre compréhension des processus aléatoires et en particulier des processus gaussiens. Alors, dans un communiqué, le CNRS a salué ces travaux qui permettent de mieux comprendre comment et pourquoi de nombreux phénomènes sont décrits dans la distribution gaussienne. Notre vie entière, explique le CNRS, notre vie entière est guidée par la distribution gaussienne, le poids des bébés à la naissance, les résultats obtenus par les élèves à l'école, l'âge auquel les athlètes prennent leur retraite sont autant d'événements apparemment aléatoires qui suivent parfaitement la distribution gaussienne. Tout ce qu'on fait un peu de mathématiques voit un petit peu à quoi correspond cette fameuse distribution, cette courbe de Gauss. De son côté, la ministre française de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau, a exprimé une immense fierté de voir le dynamisme et l'excellence de la recherche française en mathématiques ainsi récompensée. Et donc Michel Talagrand, vous pouvez un petit peu voir depuis quelques jours quelques portraits de lui dans différents médias. On parle donc de ce prix Abel et il est baptisé en hommage au mathématicien norvégien Niels Abel, qui a vécu au 19e siècle. Il est doté d'environ 647 000 euros, c'est quand même pas anodin, ça peut être sympa, et le prix sera officiellement remis à Oslo le 21 mai prochain. La récompense a donc été créée au début des années 2000 par le gouvernement norvégien, entre autres, pour compenser l'absence de prix Nobel de mathématiques. Il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques, mais il y a donc un prix Abel. Michel Talagrand a précisé qu'il reverserait l'intégralité de cette dotation dans une fondation qu'il est en train de créer. Cette fondation commencera d'ici à 10 ans à décerner son propre prix pour couronner des avancées en mathématiques. Et donc, je vous disais, il y a eu plusieurs Français qui ont été récompensés par le prix Abel. Mais le dernier était en 2017. Et donc là, 2024, Michel Talagrand, félicitations à lui. On parle beaucoup de mathématiques dans cette émission. Puis après tout, tant mieux, c'est aussi ça, la science. Plusieurs informations qui ont été annoncées cette semaine, notamment mercredi, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, s'est rendu dans la centrale nucléaire de Civaux, près de Poitiers. Nous sommes dans le département de la Vienne. La visite était secrète. Et la question, c'est en quoi le nucléaire civil peut-il intéresser les militaires pour justifier une telle visite ? Eh bien, le ministre a annoncé que le réacteur allait servir à générer du tritium. Ce composé, c'est un isotope radioactif de l'hydrogène. Et quand on va le mélanger au deutérium, eh bien, il sert à engendrer la fusion nucléaire des bombes H de l'arsenal de la dissuasion française. Et donc, pour le générer, il faut irradier du lithium. Ce lithium sera donc immergé dans le réacteur de la centrale nucléaire de Civaux. Alors, pourquoi utiliser une centrale civile ? Parce que le site de production de tritium a été fermé en 2009. C'est à Célestin, c'est le CEA, le Centre d'études atomiques qui gère ça. Comme il est fermé, bah, du coup, on va utiliser une centrale. Le tritium, il a une demi-vie limitée à 12 ans. Et donc, pour maintenir fonctionnel l'arsenal nucléaire français opérationnel, il a donc été décidé de produire ce tritium dans la plus récente des centrales civiles, donc c'est celle de Civaux dans la Vienne. Cette décision n'est pas spécialement en lien avec les tensions géopolitiques actuelles, nous dit-on. Elle a été prise, cette décision, il y a plusieurs années. Mais voilà, ça a été donc annoncé cette semaine, cette centrale nucléaire française de Civaux qui va produire du tritium pour des bombes H. C'est ce qui a donc été annoncé cette semaine. On va parler de Neuralink. On en a déjà parlé de Neuralink. 2 mois après avoir annoncé la pose du tout premier implant chez un être humain, eh bien la firme Neuralink d'Elon Musk lève enfin le voile sur son identité. Une vidéo qui a été diffusée en direct il y a quelques jours pendant près de 10 minutes où il y a ce patient qui raconte son expérience avec l'implant cérébral, donc vraiment au niveau du cerveau, et il raconte un petit peu la manière dont l'appareil a changé sa vie. Ce patient est un homme de 29 ans, il s'appelle Nolang Aurbog. Il est devenu très tétraplégique il y a 8 ans après un accident de plongée qui a disloqué ses vertèbres C4 et C5. Et donc dans cette vidéo, il est accompagné de Bliss Chapman de cette société Neuralink. Il commence par montrer une partie d'échec en cours et avant de recevoir l'implant, il devait utiliser une tige tenue avec la bouche pour commander l'ordinateur. Et bien désormais, tout se fait par la pensée. C'est ça qui est totalement... C'est un peu comme de la télépathie, c'est ça qui est totalement fascinant quand même. Et la vidéo montre le curseur qui se déplace sur l'écran et cela semble quasiment aussi naturel qu'avec une souris. C'est-à-dire qu'il pense pour déplacer le curseur sur un écran. Nous, on le fait avec la souris, lui, il le pense et ça donne à peu près le même résultat. Ensuite, donc, ce patient a expliqué qu'il était très limité dans le temps d'utilisation de l'ordinateur auparavant et il avait toujours besoin d'un proche pour l'assister. Et donc, après avoir reçu cet implant, il a pu jouer tout seul pendant plusieurs heures à des jeux vidéo. L'implant a toutefois nécessité un temps d'apprentissage. Il explique « J'essayais de déplacer, par exemple, ma main droite vers la gauche, vers la droite, vers l'avant, vers l'arrière. Et à partir de là, je pense que c'est devenu intuitif pour moi de commencer à imaginer le mouvement du curseur. » Donc ce patient, Nolan Darbo, a encouragé ceux qui hésitaient à s'inscrire en indiquant qu'il n'y avait rien à craindre. Pour lui, la chirurgie était très facile. Il est sorti de l'hôpital au bout d'une journée, nous dit-il. Oui, c'est vrai que c'est quand même assez étonnant. Toutefois, la société Neuralink, nous raconte cet article dans Futura Science, a été vivement critiquée après un taux de mortalité très élevé lors des essais sur des primates. Et une enquête est en cours suite au non-respect des protocoles d'hygiène pendant la manipulation des implants retirés des singes et contaminés par des agents pathogènes. Alors heureusement, ce patient semble n'avoir subi aucun effet secondaire. Malgré tout, il souligne que l'implant est encore loin d'être complètement abouti. abouti et qu'il reste encore beaucoup de travail. Donc voilà, le premier patient qui a reçu cet implant cérébral de la société Neuralink témoigne en vidéo, et vous pouvez voir cette vidéo qui a été diffusée également il y a quelques jours. Et c'est assez, je sais pas, c'est assez bluffant, entre guillemets, quelque part, oui, de voir justement le fait que l'on peut penser déplacer un curseur sur un écran. Je sais pas, je trouve ça, c'est la technologie, et voilà, on voit très bien. Enfin, c'était sujet il y a quelques années dans cette émission, on ne pensait même pas l'évoquer, en fait. On était vraiment dans de la science-fiction qui nous projetait dans des décennies, et en fait, ça va très vite. Et là encore, on est sur une zone du corps humain, le cerveau, qui reste encore la zone la moins explorée, ou en tout cas celle que l'on n'arrive pas encore à totalement bien comprendre. Et du coup, voilà, on est sur des sujets vraiment très précurseurs et totalement innovants, bien évidemment. On va peut-être écouter, ouais, on va peut-être écouter un petit titre, et puis on va continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. On va parler du changement d'heure qui aura lieu le week-end prochain, pour voir s'il y a un impact sur la santé. Et on va également parler de la NASA, de la sécheresse, de la Russie et de la Chine. C'est sur Graphite et c'est en direct, 06 95 065 026 si vous souhaitez réagir en direct dans cette émission. Là, on écoute Crocodiles.
Cause tears mean more than any book you've read.
Rock and Roll Graveheart, c'était Crocodiles sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h, la rediffusion le mardi matin 10h, aussi bien sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet et la bande FM 94.9. Les technologies de communication numérique et les technologies liées à l'énergie propre sont en plein essor, c'est ce que révèle le Patent Index. C'est en fait le baromètre annuel de l'innovation. Et là, donc, on a le baromètre annuel de l'innovation 2023 de l'Office européen des brevets. L'idée, c'est de voir un petit peu les demandes de brevets qui ont été faites l'année dernière. Et ça permet donc d'avoir le point sur les tendances de l'innovation au niveau mondial, national et régional. Alors, avec une augmentation de près de 3% par rapport à l'année précédente, eh bien, l'Office européen des brevets a examiné plus de demandes que jamais, ce qui témoigne à la fois de l'attrait du marché technologique européen et de la grande qualité de nos produits et de nos services. C'est ce qu'explique le président de l'Office européen des brevets, Antonio Campinos. Alors, dans le détail, il est à noter que la France est le deuxième pays européen derrière, j'allais dire un petit peu l'indéboulonnable Allemagne, bien sûr. Deuxième pays européen ayant déposé le plus de demandes de brevets. Un rang à relativiser tout de même, nous explique Futura, car si on ramène ça au nombre d'habitants, eh bien le pays ne se classe qu'à la 10e place. À noter aussi, eh bien c'est l'Île-de-France qui devient la championne de l'innovation des régions européennes, notamment devant la Bavière. À l'échelle mondiale, 57% des demandes provenaient de pays non européens, avec en tête les États-Unis, le Japon, la Chine et la Corée du Sud, qui cette année fait sa première apparition dans le top 5. Alors, en matière de technologie, la plus forte croissance l'année dernière concerne la communication numérique, qui couvre les technologies liées au réseau mobile. Il y a également les technologies médicales qui sont concernées. Et il y a aussi l'informatique également. L'activité en matière de brevets dans les biotechnologies a également continué de progresser avec une hausse de près de 6%. En France, c'est le secteur des transports qui reste le plus innovant. Et il y a également les technologies médicales qui sont assez concernées. Alors, les petites et les moyennes entreprises européennes recourent de plus en plus aux brevets. La part des demandes qui émanent des PME ayant atteint son plus haut niveau l'année dernière. Près d'un brevet sur quatre a été déposé par un inventeur individuel ou par une PME. Et autre fait notable, 27% des demandes de brevets en provenance de l'Europe citent au moins une femme comme inventeur, à peu près un quart, quand même pas grand-chose. L'Espagne, la France et la Belgique sont plutôt en avance dans ce domaine. En France, c'est à un tiers des brevets qui mentionnent une femme comme inventeur. Donc voilà, c'est le baromètre annuel de l'innovation 2023 qui a été publié il y a quelques jours. Je vous parlais donc du changement d'heure qui aura lieu la semaine prochaine, hein, dans la nuit de samedi 30 à dimanche 31 mars. On va donc passer de 2h à 3h du matin en un claquement de doigts. Alors, c'est le moment donc d'accueillir le passage à l'heure d'été. Est-ce aussi anodin qu'il n'y paraît? Quels sont les effets du changement d'heure sur notre santé? Eh bien, tous les ans, on a des articles qui reviennent un petit peu, qui font le point sur ce sujet-là. Et la littérature scientifique montre que le changement d'heure a bel et bien des effets physiologiques et sanitaires. Il impacte notre horloge biologique interne, qu'on appelle le système circadien. Il peut induire des effets néfastes sur notre santé, troubles du sommeil, troubles de la vigilance, des accidents du travail, des accidents de la route, des dépressions, des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux. N'en jetez plus, la coupe est pleine. L'adaptation en fait de l'organisme à ce décalage horaire qu'on lui impose varie d'un individu à l'autre. Ça peut durer de quelques jours à plusieurs mois. Et donc dans ce contexte de changement d'heure, ce sont les petits-enfants et les personnes âgées qui ont le plus de risques de ressentir des effets négatifs. Mais il y a également le cas des adolescents, les travailleurs de nuit, tous ceux qui souffrent de troubles du sommeil, ils vont rencontrer des difficultés à pouvoir s'adapter à ce nouvel horaire. Selon l'avis des spécialistes, le passage à l'heure d'été serait compliqué à gérer pour l'organisme par rapport au passage à l'heure d'hiver. Bien sûr, il y a la perte d'une heure de sommeil et aussi le fait que l'horloge biologique devra être avancée d'une heure. Alors, En moyenne, nos organismes ont tendance à accumuler un retard de 10 minutes sur leur cycle de 24 heures. Et avec le changement d'heure, on leur demanderait d'avancer leur rythme d'une heure, ce qui va accentuer les efforts faits par notre corps pour tenter de rattraper son retard. Ce changement serait particulièrement mal vécu par les personnes qui enregistrent une moyenne de 30 minutes de retard sur leur cycle de 24 heures. Tu m'étonnes. Quelque part, on court après des heures de sommeil qu'on n'arrive pas à avoir. Les effets du passage à l'heure d'été sur notre rythme circadien sera accentué par le manque général de sommeil de la population française, estimé entre 30 et 90 minutes par jour, selon les études. C'est quand même assez important. Pour certains, une heure et demie de manque de sommeil par jour, c'est quand même assez affolant. La suppression du changement d'heure saisonnier, ça avait été voté en 2019. Les États membres de l'Union européenne doivent désormais choisir quelle heure définitive adopter. Donc ils ont dit oui, il faut qu'on arrête de changer d'heure, mais on ne sait pas laquelle en fait. Alors le temps qu'ils se mettent d'accord, à mon avis, on sera déjà mort et enterré. En tout cas, la grande majorité de la communauté scientifique recommande que le choix se porte sur le maintien de l'heure d'hiver, nous dit-on. Alors si on venait à maintenir l'heure d'été toute l'année, le réveil en hiver et le coucher en été seraient en effet plus difficiles. Le jour le plus court de l'année, c'est le 21 décembre. Le soleil se lèverait à Paris à 9h41. C'est vrai que ça fait quand même tard. Et un lever du soleil très tardif aurait un impact néfaste sur la santé des Français. Le réglage de notre horloge biologique se faisant aussi par l'exposition à la lumière. Et à l'heure du réveil, notre corps a besoin d'une dose importante de lumière pour débuter une nouvelle journée et synchroniser l'horloge biologique. Il serait ainsi privé de cette lumière en hiver, avec un lever du jour plus tardif. En revanche, si l'heure d'hiver est maintenue, eh bien, le coucher du soleil aurait lieu en moyenne 4 heures plus tard en été qu'en hiver, au lieu de 3 heures avec le changement d'heure actuel. Et ça induirait donc un coucher plus précoce et un sommeil plus long qui serait bénéfique à notre santé. Des travaux sur l'importance de l'exposition à la lumière sur le rythme circadien sont menés au centre de recherche en neurosciences de Lyon. L'équipe de recherche a notamment observé que certaines expositions à la lumière à des moments très précis ont des effets bénéfiques sur la physiologie du sommeil et les fonctions non visuelles de l'organisme, telles que la sécrétion de la mélatonine, cette hormone qui va un petit peu contrôler cette régulation du sommeil. Et puis voilà, il y aura vraiment des impacts bénéfiques sur l'activité cérébrale, la température et le système cardiovasculaire, même à des expositions très courtes et à des niveaux très faibles de lumière. Donc voilà, il y a bien, et ça tous les ans on le dit, je crois qu'à peu près ce genre d'article, on le voit à peu près tous les ans dans différentes revues scientifiques, et qui nous montre bien, qui nous explique bien que, preuve à l'appui, le changement d'heure a bel et bien un impact sur notre santé. Alors quelque part, on était bien rendu compte, mais là voilà, ça a été des études un petit peu plus prolongées qui va permettre d'en savoir... qui permet de prouver quelque part ce qu'on avait ressenti. Allez, on va partir dans l'espace. Le 5 avril 1973, donc il y a plus de 50 ans, la sonde Pioneer 11 partait vers les planètes du système solaire. Et quelques temps avant, il y avait les regrettés Carl Sagan et Frank Drake qui avaient redoublé d'efforts pour convaincre les décideurs et le grand public de l'intérêt du programme SETI. Et donc ces deux astronomes ont réussi à faire embarquer sur cette sonde Pioneer 11 une plaque en or sur lesquels se trouvait un message de l'humanité destiné aux extraterrestres. Alors, on ne croit pas qu'il existe une civilisation technologiquement avancée au niveau de l'un des satellites de Jupiter, parce que c'est là où partait cette sonde, mais il est possible qu'une forme de vie existe tout de même dans des océans également recouverts de banquises que l'on a sur ces satellites de Jupiter ou ailleurs. Et du coup, on peut penser que la NASA, elle a décidé d'équiper la sonde qui va partir bientôt à destination d'Europe. Ça va être au mois d'octobre et on suivra ça dans cette émission Biotine au mois d'octobre 2024. L'idée, c'est d'arriver en 2030 aux abords de Jupiter. Et donc, du coup, ils ont également mis dans cette sonde une autre plaque. Alors, elle n'est pas en or cette fois-ci, elle est en tantale mécanique. métallique, nous dit-on. Elle est triangulaire, elle mesure à peu près 18 à 28 cm. Un communiqué de la NASA explique que la face extérieure de cette plaque présente des œuvres d'art qui mettent en valeur le lien entre la Terre et Europe. Europe, c'est cette fameuse, ce fameux, c'est un peu comme la Lune de Jupiter, on va dire Europe. Et donc, ce qui fait le lien entre la Terre et Europe, ce sont des océans d'eau. Donc, du coup, ont été gravées les formes des ondes sonores représentant des enregistrements du mot eau prononcé dans 103 langues du monde entier. C'est ça qu'on a mis donc sur cette plaque. Ces formes entourent le signe O en langue des signes américaine. La face intérieure de la plaque, elle porte gravé un texte de la poète américaine Ada Limon, qui avait rédigé le poème « In Praise of Mystery, a Poem for Europa ». La puce électronique en silicium affichant au pochoir plus de 2 600 000 noms soumis par des membres de personnes qui ont pu participer, je vais y arriver, à ce projet. Donc on a mis ça également sur cette plaque. Bref, on a gravé des quantités d'informations. L'idée, c'est un petit peu de mettre une bouteille à la mer. Et donc, si cette plaque atterrit quelque part et que quelqu'un est capable de la déchiffrer, du coup, on pourra avoir une communication directe avec cette population extraterrestre, nous dit-on. Donc, il y a également le portrait de l'un des fondateurs de la science planétaire, Ron Greeley, qui a été à l'origine des travaux qui ont mené justement à cette mission Europa Clipper. Cette plaque affiche aussi la fameuse équation de Frank Drake, qui est proposé pour estimer le nombre de civilisations extraterrestres en état de communiquer avec nous aujourd'hui par radio. Cette plaque doit être illisible à force d'avoir toutes ces informations. Et nous avons consacré beaucoup de réflexion et d'inspiration à la conception de cette plaque, tout comme à cette mission elle-même. Cela a duré des décennies. Nous avons hâte de voir ce qu'Europa Clipper nous montre dans ce monde aquatique. C'est ce qu'explique dans un communiqué la NASA, et notamment Robert Pappalardo, qui est le scientifique en charge du projet, et il explique le contenu et la conception de la plaque de voûte d'Europa Clipper sont pleins de sens. La plaque combine le meilleur que l'humanité a à offrir à travers l'univers, la science, la technologie, l'éducation, l'art et les mathématiques, le message de connexion par l'eau essentielle à toute forme de vie telle que nous les connaissons, illustre parfaitement le lien de la Terre avec ce mystérieux monde océanique que nous partons explorer. Voilà le communiqué de la NASA qui dévoile donc ce message qui va être envoyé vers un monde qui pourrait abriter la vie, nous dit-on. Départ en octobre 2024. Arriver sur place 2030. Eh bien, écoutez, on suivra ça, je vous le dis, presque toutes les semaines. Cette décennie 2020 au niveau spatial est extraordinaire. On écoute un dernier titre avant de finir cette émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Guilty Pleasures, c'était un Non-Mortal Orchestra sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Beauty In tous les samedis entre 12h et 13h pour vous informer de l'actualité scientifique. Une situation urgente en Méditerranée avec manque d'eau, températures élevées, risque d'incendie. Les régions du pourtour méditerranéen, l'Espagne, la Sicile, la Sardaigne, le Maroc sont touchées par une seconde année sèche consécutive marquée par un déficit prolongé de précipitations et de températures élevées. En Catalogne, les citernes n'ont atteint que 16% de leur niveau de remplissage habituel et certaines régions n'ont pas enregistré de précipitations depuis 3 ans. D'après l'Observatoire européen de la sécheresse, la Sicile fait de son côté partie des 1% des territoires européens au niveau de sécheresse le plus élevé, au point de déclarer l'état de catastrophe naturelle. Résultat, les conditions climatiques extrêmement arides ont poussé les autorités à imposer des restrictions sur l'utilisation de l'eau pour les habitants, mais aussi pour l'irrigation agricole, ce qui menace les récoltes. Des pertes qui ne sont pas sans conséquence sur l'économie, déjà fragilisée par le risque accru de feux de forêt qui met en danger les habitats naturels et les communautés locales. Pour rappel, en 2022, les dommages causés par les incendies avaient coûté 2 milliards d'euros à l'Union européenne. La situation catastrophique est bien évidemment à mettre sur le compte du changement climatique, c'est ce que pointent les scientifiques. L'avenir n'annonce rien de bon, puisque ce type d'événement climatique extrême sera de plus en plus fréquent et intense dans un avenir proche, si des mesures ne sont pas prises pour réduire les émissions et s'adapter aux impacts de la catastrophe en cours, d'où un nouvel appel à des mesures urgentes pour atténuer les effets de la sécheresse. Ça inclut des politiques de gestion de l'eau plus efficaces, des pratiques agricoles durables et une action collective coordonnée à l'échelle mondiale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Au niveau espace, on y retourne encore, c'est toi avec la Chine. La NASA a été contrainte de ralentir le développement de la mission de retour d'échantillons qui était menée en collaboration avec l'Agence européenne de l'espace. Tout ça en raison de contraintes budgétaires et de contraintes de calendrier. On en avait parlé il y a quelques semaines. Eh bien, la Chine, elle prévoit de ramener des échantillons de la planète Mars avec la mission Tianwen 3 qui, elle, donc la Chine, ne semble pas être confrontée à des problèmes budgétaires. Alors, sa mission qui était initialement prévue pour un lancement en 2028 a été reportée à la prochaine fenêtre de tir début 2030. Mais il n'y a pas d'indication suggérant que la Chine ne va pas respecter ses délais. L'architecture de la mission chinoise adopte une approche plus simple que celle de la NASA et de l'Agence spatiale européenne. Bien que ce soit une mission très complexe. Il y a 2 lancements qui verront le déploiement d'un véhicule d'atterrissage et d'ascension. Il y aura un orbiteur, il y aura un module de retour. Sur Mars, l'atterrisseur va utiliser un bras robotique pour collecter des échantillons de surface. Il y aura également une perceuse pour récolter du matériel jusqu'à 2 mètres de profondeur. Un robot à 6 roues, voire un hélicoptère qui pourront également être déployés pour élargir la gamme d'échantillons collectés. L'objectif, c'est de rapporter environ 500 grammes d'échantillons martiens sur Terre. Alors récemment, il y a eu un article scientifique chinois qui a identifié 3 sites potentiels pour la collecte de ces échantillons. Ces sites offrent un ensoleillement optimal et ils se trouvent à une altitude inférieure à 3000 mètres par rapport à l'altitude martienne moyenne. Ça permet ainsi à l'atterrisseur de bénéficier d'une atmosphère suffisante pour ralentir en toute sécurité sa descente. À l'intérieur de ces sites, il y a des zones d'atterrissage qui ont été identifiées pour assurer justement un atterrissage sécurisé de la mission, en évitant donc les terrains accidentés, les obstacles comme les rochers, les pentes un peu raides. Sur le plan scientifique, ces sites sont connus pour abriter des environnements propices à l'émergence et à la préservation de la vie. Donc ça peut être intéressant, bien sûr. Il y a des traces d'activité d'eau, des traces comme quoi il y avait de l'eau il y a déjà très longtemps à ces endroits-là. Et l'annonce du choix final du site principal et du site de secours sera fait prochainement. Mais voilà, La Chine avance et pour l'instant, elle respecte le timing qui a été lancé. On termine avec cet article de Futura qui voulait un petit peu faire le point sur les capacités de dissuasion de la France face à la menace russe. On voit très bien que depuis quelques jours, ça s'échauffe et donc Futura a voulu faire un petit peu le point sur cette information-là. Il y a maintenant un peu plus de 2 ans, hein, on le sait, hein, le 24 février 2022, la Russie lançait le début de son invasion de l'Ukraine et face au soutien des nations européennes et des pays membres de l'OTAN à l'Ukraine, eh bien, Poutine annonçait le 27 février relever le niveau d'alerte des forces nucléaires de la Russie. Donc dans la foulée, la Russie effectuait du posturing en envoyant dans le nord de l'océan Atlantique quelques sous-marins nucléaires dans l'objectif d'envoyer un message menaçant aux forces de l'OTAN. Une rhétorique belliqueuse destinée aux pays occidentaux, reprise par de nombreuses personnalités du Kremlin. Bien évidemment, on a tous entendu ça. Il y a également l'idée de dire, et ça date d'il y a quelques jours, que la Russie était en état de guerre en Ukraine, alors que le Kremlin s'efforçait depuis le début de l'invasion à constamment employer l'expression « opération militaire spéciale ». On se souvient de ce terme qu'on a utilisé pendant très longtemps. Là, on parle maintenant d'état de guerre. Et donc, pour éviter toute escalade, les États-Unis ont aussitôt mis en place une ligne directe avec le Kremlin afin de prévenir tout incident. Tandis qu'un test de missile balistique intercontinental avait été repoussé en 2022, si les États-Unis possèdent une partie de leur arsenal sur le territoire européen depuis la guerre froide, 2 pays de l'Ouest de l'Europe sont détenteurs d'une force de frappe et de dissuasion nucléaire. Le Royaume-Uni et la France. Et au cours des dernières semaines, des membres du gouvernement français ont rappelé à plusieurs reprises la capacité nucléaire française dans une logique dissuasive. C'est en 2022, il était à l'époque ministre des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian rappelait sur l'antenne de TF1 que l'OTAN était aussi une alliance nucléaire en réponse à des déclarations un petit peu menaçantes de Vladimir Poutine à l'époque. Si la France possède moins de têtes nucléaires déployées que la Russie et les États-Unis, son arsenal s'élève à 280 têtes plus 20 en réserve. Elles se répartissent entre les forces océaniques stratégiques et les forces aériennes stratégiques. Alors au niveau océanique, il y a 4 sous-marins nucléaires lancheurs d'engins, je vais y arriver, qui existent. Et ces missiles peuvent supposément atteindre un objectif estimé à 6000 km. Donc ça, c'est quand même une assez grande envergure. Au niveau des forces aériennes stratégiques de l'armée de l'air, eh bien, ces forces sont composées de plusieurs escadrons de rafales qui emportent depuis les années 2010 des missiles air-sol moyenne portée améliorée. Chaque missile contient une tête nucléaire pouvant parcourir 500 km avant de toucher une cible. La puissance de cette tête nucléaire aéroportée serait de 300 kilotonnes. Alors, à titre comparatif, la puissance de la bombe larguée sur Hiroshima n'était que de 15 kilotonnes. Là, on est sur des têtes nucléaires à 300 kilotonnes. Donc, on voit un petit peu la différence. La France possède une troisième branche de son arsenal de dissuasion, c'est la force aéronavale nucléaire. Et elle offre en fait un appui aux rafales chargées de la dissuasion nucléaire depuis le porte-avions Charles de Gaulle. Donc la force nucléaire française est dite dissuasive, elle est destinée à décourager un ennemi à mener une offensive contre la France. Cette stratégie fait partie de la doctrine dite de l'équilibre de la terreur, qui était élaborée dès la guerre froide, alors que les États-Unis et l'Union soviétique démarraient une véritable course à l'armement nucléaire. L'équilibre de la terreur dispose du fait suivant. Si une nation possédant des forces de dissuasion est attaquée, elle peut être en capacité de détruire proportionnellement l'agresseur. Et donc, dans le contexte de la guerre en Ukraine, qui ravive des tensions géopolitiques avec la Russie, eh bien, la France continue de démontrer l'étendue de ses capacités. Le journal Air et Cosmos de cette semaine a révélé que la Marine nationale avait optimisé le cycle de patrouille des SNLE. Ça permet en fait de déployer 3 sous-marins en eau profonde et dans une logique de discrétion absolue concernant les manœuvres des forces de dissuasion, eh bien, la formation information n'a pas été démentie ni confirmée, on préfère rien dire, c'est la grande meute bien évidemment. Et il y a quelques jours, demain, 24 mars, c'est demain, je vais y arriver, l'armée de l'air va tester une version modernisée en Gironde, près de Cazaux, de tout ce qui existe. On est un petit peu dans des tests en grandeur nature. De nombreux experts ont constaté qu'à l'inverse des États-Unis, la France avait choisi de ne pas annuler l'opération prévue depuis plusieurs mois, avec un retour à des bras de fer diplomatiques dignes de la guerre froide. Eh bien, la France montre qu'elle n'a rien perdu de ses capacités. Est-ce qu'on peut s'en réjouir ? On n'en sait rien, mais on suivra bien sûr l'actualité géopolitique également. Quelque part, on se rend compte que la science au sens large est un petit peu partout au niveau de l'actualité. Il est 12h58, c'est la fin de cette émission en direct de Biotine. Je vous remercie de votre attention. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. D'ici là, bien sûr, vous restez fidèles à l'essentiel des émissions de Graphite sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.